France Inter.
It's morning edition from NPR News.
MCT's and in the house.
Halia, Radio Rosana Piparis.
Produce get in the radio.
Faut pas changer de radio.
France Inter. Le 18-20. Christelle Rebière.
Un jour dans le monde, un jour en Ukraine, à Gaza ou dans le golfe du Mexique.
We're going to be changing the name of the Gulf of Mexico to the Gulf of America. The Gulf of America, what a beautiful name.
Mais oui, quel nom magnifique. C'était le premier discours de Donald Trump en tant que président élu. Avant même son retour physique à la Maison-Blanche, le président américain a ensuite signé un décret pour rebaptiser effectivement le golfe du Mexique en golfe d'Amérique, considérant que c'était une partie indélébile de son territoire. Le service de cartographie Google Maps s'est exécuté quelques jours plus tard. Certains ont trouvé cette offensive grotesque, d'autres dangereuse, car en dehors de tout état de droit. Mais cet épisode résume la question hautement sensible des frontières. Qu'est-ce qui les définit et les modifie? Un enjeu plus crucial que jamais aussi au regard des deux conflits en cours entre la Russie et l'Ukraine et entre Israël et la Palestine. Est-ce seulement une histoire de rapport de force? Bonsoir Jean-Baptiste Weber.
Bonsoir.
Vous êtes professeur d'histoire-géographie, romancier aussi, et vous venez de faire paraître avec David Perrier « Tracer des frontières » aux éditions Novice, un ouvrage passionnant à mi-chemin entre la géographie et l'histoire, et vous mettez en exergue une citation qui dit « Les frontières sont du temps inscrit dans l'espace ». C'est du géographe Michel Fouché. On va venir à des exemples concrets dans un instant, mais ça vraiment, ça résume le débat.
Ça permet de donner de la subtilité, même de la complexité à une notion qui peut être simplifiée, galvaudée, rejetée, et qui pourtant est vraiment de retour dans le débat sur la scène internationale et donc qui mérite vraiment tout l'intérêt du public éclairé comme amateur.
Alors, les frontières servent à délimiter des territoires en fonction des autorités qui exercent leur pouvoir. Ça, c'est quasiment la définition du dictionnaire. Mais c'est une notion finalement assez récente, 500 ans à peine, c'est ça ?
Exactement. C'est une notion qu'on peut qualifier même d'européenne, qui est très historique aussi et qui a été fondée à l'issue, si je puis dire, des guerres de religion. Ça faisait un siècle et demi de guerres de religion. L'Europe était à feu et à sang, et notamment par une guerre qui s'appelle la guerre de 30 ans, qui est comparable à nos guerres mondiales contemporaines. Au terme de cette guerre, les plénipotentiaires et leurs juristes ont essayé de trouver de créer un objet juridique qui permette de mettre un terme aux disputes sanglantes. Et c'est de là que sortent les frontières qui sont les nôtres aujourd'hui, qui correspondent à une nation. À l'époque, ça correspondait plutôt à des limites religieuses. Mais l'idée, c'était de départager les groupes, les communautés, pour que il n'y ait pas de conflit exacerbé à l'époque en raison de la religion. Aujourd'hui, c'est devenu plutôt une question de nation. Il y a une laïcisation de ces questions. Mais voilà, c'est récent, effectivement.
Et cette notion de frontière, elle a été accentuée évidemment au XIXe siècle avec la colonisation. Est-ce qu'aujourd'hui encore, vous diriez que c'est une question d'empire, puisqu'on est en plein dans le retour des impérialismes américains, russes ou encore chinois ?
Alors en fait, il y a eu une évolution sur cette question des frontières, puisque effectivement, c'est une notion qu'on peut littéralement qualifier d'importée d'Europe, qui a été mondialisée avec la colonisation, le partage par exemple de l'Afrique, le fameux partage de 1885, mais tous les nouveaux mondes ont été à un moment ou un autre colonisés et partagés par les Européens, et puis ensuite ces Européens ont amené leur civilisation juridique, et au moment aussi des indépendances, ils ont légué un certain nombre d'outils comme ça juridiques. Donc les frontières sont vraiment d'origine européenne. Cependant, vous avez deux conflits majeurs, la première et la Seconde Guerre mondiale, qui ont dressé les nations contre l'impérialisme, et l'outil juridique frontière est devenu plutôt un outil pour trouver un équilibre entre les nations, justifier aussi l'idée qu'il puisse y avoir des États-nations et que, donc ensuite, grâce à la mise en place de l'ONU, ces États-nations, tous autour d'une même table, puissent s'entendre.
Et c'est là qu'est intervenu l'État de droit par rapport à ces frontières.
Bien sûr, ce sont des constructions ultérieures aux frontières qui datent du XXe siècle, qui sont fondamentales, qui existent, quoi qu'on dise et quoi qu'on veuille dire. Mais effectivement, les grandes puissances actuelles, un certain nombre, enfin quelques-unes, heureusement, pas toutes, cherchent à remettre en cause ça, et notamment Trump, on peut lire des analyses.
Alors, Justement, oui. Pour en revenir à lui, on parlait au début du Golfe d'Amérique. Renommer un espace, est-ce que c'est pas déjà se l'approprier ?
Si, tout à fait. C'est vraiment un exemple qui est très lié à la problématique de notre ouvrage qui porte sur la notion de qui a la légitimité de fixer les frontières. On va pouvoir dire que ça peut être lié à la loi du plus fort, ça peut être lié au souci d'annexer des ressources naturelles, ça peut être lié à l'idée artificielle qu'il y aurait des frontières naturelles ou qu'il y aurait des frontières nationales. Même les frontières nationales sont largement des constructions. Donc, en fait, fixer les frontières relève de négociations quasiment permanente, on voit en plus dans certaines régions du monde qu'elles sont très instables, et relève aussi d'un discours politique, on est en géopolitique, donc c'est vraiment un outil juridique, mais aussi politique. Donc Trump, il est dans son rôle habituel d'utiliser le discours pour essayer d'avancer ses pions, mais il utilise que le discours aussi. On commence à savoir ça chez lui, et donc c'est une appellation, à mon avis, qui va faire long feu, et qui va juste apparaître sur les cartes de l'administration américaine, de Trump, mais pas plus, et qui va disparaître, à mon avis, le jour où Trump...
Oui, parce que même sur Google Maps, ça apparaît aux États-Unis, mais pas ici, par exemple.
Google est une entreprise américaine, voilà. Donc elle préfère...
Alors, dans votre livre « Tracer des frontières », Jean-Baptiste Weber, vous nous racontez, avec David Perrier, 10 histoires de cartes au cœur des conflits contemporains. Il y a les frontières rectilignes de l'Afrique, les frontières intérieures dans la conquête des États-Unis sur les Amérindiens, le cas d'une exclave, le Cabinda en Angola. Vous évoquez aussi Chypre coupée en deux et vous consacrez un chapitre au Maroc. Et là, on se retrouve dans l'actualité des tensions entre la France et l'Algérie, notamment sur le Sahara occidental et le front Polisario. Au fond, à qui appartient le Sahara occidental aujourd'hui ? La réponse n'est pas simple.
Elle est très complexe, effectivement. Déjà, à qui appartient le monde, à qui appartiennent les territoires, c'est aussi tout au cœur de la question qu'on pose dans cet ouvrage. Mais effectivement, bon, pour recentrer un peu la réponse, il y a un héritage de la colonisation française, déjà, qui a compliqué les choses. Mais on peut même remonter avant ça au fait que la zone dont on parle, c'est une zone d'oasis, de populations nomades de toute éternité, de populations berbères aussi, donc qui ont des modes de vie alors profondément différents de ceux qu'on connaît dans les États-nations ou dans les États constitués, par exemple comme le Maroc au Moyen-Âge, c'était déjà un État à cette époque-là, d'ailleurs qui avait une emprise territoriale plus grande que le Maroc actuel, sauf que c'était une emprise qui était médiévale, et donc ça on l'explique qu'avant l'invention des frontières à l'européenne, les frontières en réalité étaient des confins qui s'étendaient sur des zones mal définies et en général sur des zones qu'on ne voulait pas exploiter ou peu contrôlables. Vous imaginez bien qu'il y a plusieurs siècles, ces zones du Sahara, bon, à part effectivement pour les populations berbères, avaient peu d'intérêt. Aujourd'hui, elles ont beaucoup d'intérêt parce qu'elles ont elles recèlent beaucoup de ressources naturelles.
Le fond du problème, en fait.
Le fond du problème est là. C'est les ressources naturelles. Et après, il y a aussi, c'est à l'issue des indépendances, les États marocains et algériens se sont comportés comme des États-nations et ont voulu donc affirmer leur puissance. Et donc, ça, c'est aussi une dynamique. Dans la dynamique d'indépendance, ils ont voulu finalement montrer qu'ils étaient régionalement les plus puissants.
Oui, je voulais qu'on parle maintenant du Moyen-Orient, parce que dans votre livre, Jean-Baptiste Weber, vous revenez dans deux chapitres différents sur Moyen-Orient, avec ce que vous appelez le dépeçage de l'Empire ottoman par les Anglais et les Français au XIXe siècle, et ensuite via le cas israélo-palestinien. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est une frontière impossible à trouver ?
C'est, à mon sens, une frontière impossible à trouver, et ça fait des millénaires, en fait, que les frontières dans cette région-là sont très mouvantes. Il y a bien sûr eu des dominations, mais c'était des dominations impériales qui pouvaient être très dures, très, très cruelles. On n'a jamais trouvé d'équilibre, il semble, en tout cas, dans ce que j'ai pu lire et j'ai lu beaucoup sur la question, on n'a jamais trouvé d'équilibre entre différents peuples.
Mais sur le cas israélo-palestinien,
Le cas israélo-palestinien, dans le chapitre écrit par mon co-auteur David Perrier, il nous explique que les tracés frontaliers auxquels tendent aujourd'hui les Israéliens sont des tracés frontaliers dont il faut trouver la compréhension dans la Bible et qui remontent à des millénaires. Alors qu'en fait, il y a déjà des millénaires et la Bible nous le dit aussi, c'était un lieu de carrefour avec beaucoup d'affrontements. Et depuis tous ces millénaires, vous avez eu un brassage extraordinaire de population et des affrontements systématiques.
Et donc, dans la situation dans laquelle on se trouve aujourd'hui entre Israël et la Palestine, est-ce que la solution à deux États est encore viable, à votre avis ?
Oui. Moi, mon avis, c'est qu'effectivement, il faut défendre une solution à deux États, coûte que coûte, parce que quand on examine la géographie humaine, par exemple, de la bande de Gaza, c'est une géographie qui est millénaire. Donc, l'idée d'en faire une riviera, d'expatrier de façon forcée les populations, ce sont des idées.
C'est le projet de Donald Trump.
On ne peut pas imaginer plus grande violence, mais surtout plus grande maladresse historique. Enfin, le mot est faible, je ne le trouve pas, mais ça ne se passera pas, d'ailleurs. Et donc, effectivement, si on veut atteindre à quelque chose qui ressemble un peu plus à la paix, il faut établir des frontières plus solides. Parce que les frontières sont établies à l'origine pour atteindre à un équilibre pacifique. C'est l'objet de la création de cet outil juridique. Et bien sûr, après, quand on a des frontières, on a tendance à vouloir les étendre. Donc aujourd'hui, on a tendance à voir ça comme source de conflit. Mais à l'origine, la frontière, et c'est encore le cas, sert quand même à éteindre les conflits.
Mais cette frontière est une ligne de front aujourd'hui.
Oui, mais il y a trois sortes de frontières, on pourrait dire, dans cette région-là. Vous avez la frontière rêvée et largement conquise par les Israéliens et même par les sionistes. Vous avez aussi le regard palestinien et de leur soutien. Et puis vous avez entre ces deux pôles le point de vue international, on pourrait presque dire occidental, qui est le nôtre, qui est ce discours de dire il faut deux États. Je sais que j'ai un point de vue occidental quand je le dis. Voilà, donc c'est un lieu où vous avez trois frontiarisations possibles. Il n'y a pas de frontière fixe, clairement, depuis qu'on parle des conflits israélo-palestiniens. Il n'y a pas eu une année où les frontières étaient les mêmes. Ouais. J'ai encore vu là que le ministre d'extrême droite de
Benjamin Netanyahu.
Modric
oui.
A lancé aujourd'hui même plusieurs colonies en Cisjordanie.
En Cisjordanie,
pour de nouveau repousser cette fameuse frontière qui n'est jamais fixe.
Alors, une frontière qui est aussi une ligne de front, c'est le cas dans le conflit entre l'Ukraine et la Russie. Le tracé de la future frontière de l'Ukraine est effectivement au cœur de ce conflit. La Russie occupe aujourd'hui 20% du territoire ukrainien. Volodymyr Zelensky ne veut rien lâcher. Mais pour obtenir la paix, est-ce qu'on peut éviter de redessiner certaines frontières ?
Pour ce qui est du conflit entre la Russie et l'Ukraine, c'est vraiment difficile à moi en tant qu'historien et j'essaie de le suivre. Je ne sais pas encore comment me positionner. Par contre, ce que fait la Russie est extrêmement dangereux on parle dans notre livre de ce qu'elle a fait à Kaliningrad. C'est exactement ce qu'elle est en train de tenter dans le Donbass et en Crimée. C'est d'une très très grande violence pour les populations, pour la culture, pour l'histoire, pour tout ce que vous voulez, pour l'humanité, on pourrait dire, et ça laisse toujours des traces. En fait, cette enclave de Kaliningrad dont on parle peu, il suffit de s'y pencher un tout petit peu pour se rendre compte qu'il y a... Voilà, on a tout un chapitre dessus, mais en fait, nous, on est loin de ça, mais dans l'espace baltique, en Allemagne, en Pologne, c'est aussi cette enclave qui fait craindre ce qui se passe en Ukraine. Enclave, rappelons-le quand même, quand Poutine menace de nucléariser les capitales, c'est parce qu'ils ont renucléarisé cette enclave de Kaliningrad.
Pour finir notre entretien, est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui, comme au 19e et au début du 20e siècle, les frontières, c'est d'abord une question d'impérialisme ?
C'est ce que voudraient rétablir les Russes, l'école réaliste qui conseille Poutine en Russie, parce qu'il y a d'autres écoles libérales et Trump moins les Chinois d'ailleurs, qui seraient peut-être plus partisans quand même du système international qui a été construit depuis la Seconde Guerre mondiale et même avant ça, depuis la SDN de la Première Guerre mondiale, et même avant ça on trouve déjà des traces au 19e siècle. Donc depuis le Moyen-Âge, on peut voir qu'on essaye aussi de construire un système international qui aboutit à une pacification des rapports entre puissances.
Merci beaucoup. Merci Jean-Baptiste Weber d'avoir été l'invité d'Un jour dans le monde. Je rappelle le titre de votre ouvrage, Tracer les frontières, coécrit avec David Perrier aux éditions Novice. Dans un instant, nous serons au Japon avec le reportage. Pour vous accompagner jusqu'à 19h, Kevin Dufraîche sous les radars.
En Iran, une grève des chauffeurs poids lourds assez inédite.
Le Monde à 18h50, c'est avec vous, Frédéric Saïs, bonsoir.
Bonsoir Christelle, l'extrême droite dopée par le vote des expatriés.
Et comme tous les jeudis, la tech la première avec vous, Stéphane Jourdain, et vous allez encore nous faire frémir.
Bonsoir Christelle, on parle de vidéos générées par l'IA. Bienvenue dans un monde où il est quasi impossible de distinguer le vrai du faux.
Pour l'instant, on fait une escale aux États-Unis avec la soul douce et réjouissante de Duran Jones and the Indications. Ils reviennent avec un nouvel album le 27 juin. Voici un extrait, Been So Long. Bon début de soirée sur France Inter. Le reportage d'Un jour dans le monde est au Japon où la chirurgie esthétique fait recette et séduit des femmes de plus en plus jeunes avec des demandes qui, vues d'ici, sont assez surprenantes. Par exemple, se faire faire de fines poches sous les yeux pour paraître plus mignonne. Et le reste, c'est Karine Nishimura qui le raconte.
En général, cela débute ainsi par l'envie d'imiter.
J'ai vu que des artistes comme l'actrice Satomi Ishihara avaient ce genre de paupières et j'ai trouvé ça mignon.
Faire comme une idole, avoir des paupières inférieures un peu protubérantes, presque gonflées, une mode parmi une frange de jeunes japonais et japonaises, celles et ceux qui ont les moyens de s'offrir des séances régulières de chirurgie esthétique. L'opération consiste en des injections dans les paupières inférieures d'acide hyaluronique, une pratique commune pour le chirurgien esthétique Kenichiro Sasaki qui nous reçoit dans son petit cabinet de Shibuya, quartier tokyoïte des dernières modes et tendances.
Les yeux sont la partie du visage qui soucie en premier lieu les jeunes japonais. Contrairement aux occidentaux, les femmes japonaises, et c'est vrai aussi pour les hommes, n'ont pas de grands yeux ni de nez bien sculptés. Ce sont donc là que se situent les retouches esthétiques les plus demandées. Ils et elles veulent à tout prix agrandir leurs yeux. Or, en gonflant un peu les paupières inférieures, le regard ressort plus.
Des jeunes filles déguisées en soubrettes qui interpellent les hommes plus ou moins jeunes sur les trottoirs d'Akihabara, quartier des animés, jeux vidéo et girls band, sont souvent des adeptes de cette pratique et ce n'est pas un hasard.
Beaucoup de jeunes filles veulent ressembler aux starlettes sud-coréennes qui ont des paupières inférieures très apparentes ou aux personnages féminins des animés japonais car cela a un côté mignon, adorable. Cette tendance de demande d'injection sous les yeux s'est amplifiée depuis ces 5 dernières années.
Et c'est cette apparence dite kawaii de femme-enfant au petit visage et aux yeux artificiellement agrandis qui fait florès, témoigne Momo.
Je fais des injections d'acide hyaluronique dans les paupières depuis un moment, et là j'en ai refait une parce que l'effet avait disparu, la précédente datant d'il y a environ 6 mois. Quand j'ai posté cela pour la première fois sur Instagram, j'ai reçu plein de questions sur la quantité injectée, la perception de la douleur, etc.
L'appréciation du résultat varie cependant en fonction des générations. Rien de choquant ni surprenant pour ces deux étudiantes.
Ce qu'on en pense ? Bah c'est mignon. Les yeux paraissent plus grands, l'écart entre les yeux et la bouche est réduit et le visage semble plus fin. C'est mignon, très mignon. De toute façon, l'acide hyaluronique finit par disparaître seul, donc je ne pense pas que ce soit risqué. Enfin, j'en sais rien. Ce qui est plus embêtant, c'est que c'est un peu du gâchis, parce que ça disparaît avec le temps.
Mais les sexagénaires interrogées, elles, sont carrément perplexes.
C'est étrange, pas naturel, vraiment bizarre. Ça surprend. Notre génération ne faisait pas ça. Elles se rendront compte quand elles seront plus vieilles que c'était bizarre. Elles sont jeunes, elles n'en ont pas conscience. Elles veulent faire comme les filles qui se montrent ainsi en photo sur les réseaux sociaux. Faire pareil les rassure. Elles ne songent pas au risque. Elles foncent. C'est ça la jeunesse.
Et pourtant, le danger existe. Les prospectus et réseaux sociaux regorgent de publicités de cabinets d'esthétique plus ou moins sérieux qui cassent les prix sur ces opérations simples afin d'en vendre d'autres plus lucratives. Et certaines filles n'ont plus ensuite pour pleurer que leurs yeux aux paupières saccagées.
Et c'est la rediffusion d'un reportage de Karine Nishimura, Sous les radars avec Kevin Dufraîche. Nous sommes d'abord en Iran avec un mouvement d'une rare ampleur.
Oui, voilà 8 jours que les routiers sont en grève pour réclamer de meilleures conditions de travail et protester contre la hausse des prix des carburants et le manque de sécurité routière aussi. Ce mouvement est né à Bandar Abbas, un port du sud du pays, et depuis il s'est étendu à une centaine de villes selon plusieurs médias indépendants qui publient des vidéos montrant des dizaines de poids lourds à l'arrêt au bord des routes. Voilà de quoi secouer le régime dans un pays où 90% du transport de marchandises se fait par camion. Le syndicat des camionneurs évoque des difficultés et des pressions de la part des autorités de la République islamique qui crient au complot, hein, affirmant, je cite, que des médias hostiles à la révolution appellent les chauffeurs à faire grève. Après presque une semaine de silence, des députés tout de même commencent à s'exprimer, appelant le gouvernement à prendre en compte les revendications et à agir pour éviter les pénuries. Hier, le réalisateur Jafar Panahi, récent lauréat de la Palme d'Or à Cannes et critique du pouvoir iranien, a publiquement affiché son soutien à cette grève.
Nous voici en Chine avec une polémique.
Oui, après qu'une vidéo a beaucoup circulé sur les réseaux sociaux en Chine. C'était il y a quelques semaines au Jindan Institute, une université de Pékin. On voit une étudiante demander à une femme « Est-ce que toutes les filles doivent retirer leurs pantalons et vous montrer pour avoir un arrêt maladie ?» Oui, c'est la règle de l'école, lui répond son interlocutrice. Cette scène, c'est celle d'une étudiante qui demande à pouvoir rentrer chez elle parce qu'elle a des règles douloureuses et l'institution qui lui demande de prouver qu'elle a bien ses règles. Ce qui a provoqué un tollé sur les réseaux sociaux chinois. Parmi les commentaires relevés par la BBC, on peut lire « Peut-être qu'il faut coller la serviette hygiénique sur le certificat médical » ou encore « J'ai mal à la tête, je dois ouvrir mon crâne pour pouvoir partir ». L'université, par communiqué, a dénoncé des vidéos déformées, voire fausses.
Enfin, nous sommes en Thaïlande avec un détenu pas comme les autres.
Oui, parce que c'est un chat visiblement perdu dans les rues de Bangkok. Alors des passants décident de l'attraper et de l'amener au commissariat le plus proche pour, qui sait, retrouver son propriétaire. Sauf que ce petit chat gris est si mignon, ne semble pas décidé à se laisser faire. Il tente de s'échapper et griffe plusieurs policiers qui décident d'en rire. Sur son compte Facebook, l'un d'entre eux poste alors les photos d'une fausse arrestation. Ce chat est accusé d'agression contre des policiers. Merci de partager ce message afin que son propriétaire puisse le tirer d'affaire, écrit-il, tout en montrant la prise d'empreinte du chat ou encore en publiant un extrait d'un un faux rapport de police où le chat déclare « J'avais juste faim, je ne voulais mordre personne ». Et surtout, il a eu droit, ce chat, à son mugshot, vous savez, la photo d'identité judiciaire qui est depuis devenue virale sur Internet. Et ça a marché puisque les propriétaires sont venus récupérer leur matou au commissariat. Aucune charge n'a finalement été retenue contre lui.
Et en prime, on vous met la photo du mugshot sur le site
Bien sûr,
France Inter.
À la page de Sous les radars.
Voilà, merci Kevin. On vous laisse partir sur un titre plus vieux que vous. Il date de 1993. Beck sortait Loser entre guitare et sitar et des paroles absurdes, devenues quasiment l'hymne d'une génération.
Splinters.
Beck, Loser, Le Monde à 18h50, c'est avec Frédéric Saïs.
How dare you?
World has changed.
Christelle Rebière. Le 18-20.
Et vous revenez ce soir, Frédéric, sur plusieurs élections récentes. Vous vous interrogez, vous vous demandez pourquoi les électeurs expatriés votent-ils davantage pour l'extrême droite?
Oui, Christelle, ce sont les élections portugaises qui m'ont mis la puce à l'oreille. On vient d'avoir les résultats définitifs et il s'avère que l'extrême droite progresse, ça on le savait déjà, mais surtout, elle devient le premier parti d'opposition. Et ça grâce à qui? Eh bien, aux Portugais qui vivent à l'étranger. Ces électeurs de la diaspora ont placé en tête Chega, le parti nationaliste anti-immigration, ce même parti qui n'est arrivé que, entre guillemets, troisième dans les urnes au Portugal. Une poussée électorale venue de la diaspora, donc qui permet à l'extrême droite de se hisser comme deuxième force du Parlement, derrière la droite libérale, mais devant le Parti socialiste, ça s'est joué à une poignée de sièges.
Et il y a donc bien d'autres exemples que celui du Portugal.
Oui, la présidentielle en Roumanie, il y a 10 jours, assez serrée, remportée finalement par le candidat centriste et pro-européen, près de 54% des voix. Mais si seuls les électeurs roumains établis à l'étranger avait voté, eh bien c'est le candidat d'extrême droite, Simeón, qui aurait gagné dès le premier tour avec 60% des suffrages. Là aussi, la diaspora a un vote plus radical que le pays d'origine. Elle se tourne davantage vers le nationalisme, la quête d'un homme fort et d'un pouvoir autoritaire. Une telle configuration, d'ailleurs, ne surprendra pas celles et ceux qui se sont intéressés aux élections en Turquie. À chaque fois, c'est le même phénomène. L'autoritaire président Erdogan fait ses meilleurs scores en dehors de la Turquie. 64% des voix dès le premier tour, par exemple, chez les Turcs établis en France et en Allemagne lors de la dernière présidentielle. En comparaison, sur le sol turc, c'était un peu moins de 50%.
Les électeurs des diasporas, plus royalistes que le roi en quelque sorte.
Oui, ou en tout cas plus nationalistes que la nation, pourrait-on dire. Alors comment expliquer ce phénomène ? C'est vrai qu'à première vue, c'est paradoxal. Ces communautés expatriées, en moyenne, ont souvent un niveau de vie supérieur aux populations restées au pays. Alors pourquoi se jettent-elles dans les bras de populistes ou de radicaux ? D'abord, il faut nuancer les chiffres et prendre en compte l'abstention très élevée. Autrement dit, la majorité de ces expatriés ne votent pas lors des scrutins de leur pays d'origine et ceux qui font l'effort de participer sont une sorte de noyau dur qui conserve un lien fort, collectif, parfois au travers d'associations culturelles, ceux qui favorisent plutôt un choix identitaire au moment de glisser ce bulletin dans l'urne. En résumé, loin des yeux, près du cœur, c'est d'ailleurs le titre d'un livre sur la question co-dirigé par le sociologue Stéphane Dufoy, paru aux presses de Sciences Po. L'auteur évoque, je le cite, un phénomène de nationalisme à distance.
Mais selon vous, c'est pas la seule explication.
Non, alors il y a bien sûr autant d'explications particulières que de diaspora et de contexte politique. Prenez la récente présidentielle en Roumanie. Les Roumains qui vivent en Italie ont par exemple voté à 70% pour le candidat d'extrême droite. Beaucoup de ces Roumains expatriés, interrogés par le journal Le Monde, se justifient par une forme de revanche par rapport à leur pays d'origine, ou plutôt par rapport à la classe politique sur place, classe politique jugée incapable et corrompue, responsable des mauvaises conditions économiques, et donc de l'obligation d'émigrer pour aller gagner sa vie ailleurs. Voilà donc une forme de dégagisme transnational. Avec là aussi un paradoxe, ces électeurs expatriés qui votent pour l'extrême droite ne subiront pas directement les conséquences de leur choix, l'éventuel recul des libertés, l'accentuation de la répression, tout cela, ils en sont prémunis, voilà qui incite sans doute aussi à cette désinhibition électorale, provoquer la tempête, oui, mais en restant à l'abri.
Un décryptage signé Frédéric Saïs. C'est l'heure de la tech, la première à présent avec Stéphane Jourdain.
France Inter, le 18/20.
Cette semaine, Stéphane, vous avez choisi de nous parler des vidéos générées par l'IA. Google vient de frapper un grand coup avec une nouvelle application spectaculaire que de plus en plus d'observateurs jugent indétectable. Bienvenue dans un monde où il est quasiment impossible de distinguer une vraie vidéo d'une vidéo générée par une intelligence artificielle.
Oui, VO3, c'est le nom de cette IA mise au point par Google et c'est la sensation de la semaine dans le monde entier.
Est-ce que tu connais VO3, la nouvelle IA vidéo de Google? Google qui a littéralement cassé Internet.
VO3 is here and it's shocked the entire industry.
VO3, con capacidades de edición que hasta hace poco eran pura ciencia ficción.
Franchement, je suis encore sous le choc. On arrive très difficilement à savoir que c'est une IA qui a généré ce genre de vidéo.
La nouvelle application de Google peut générer n'importe quelle vidéo à partir de n'importe quelle requête. Vous tapez une phrase et vous avez une vidéo. Si vous écrivez « Je veux deux amoureux qui marchent dans Paris » et l'un dit à l'autre « Vive la France », vous aurez une vidéo ultra réaliste des deux tourtereaux avec l'un qui dit « Vive la France ». Et si vous demandez que ce soit deux ours à la place des amoureux, eh ben ça marche aussi. Et si on en parle autant, c'est que cette IA réalise deux prouesses. Primo, un incroyable saut qualitatif. Dans certains cas, il est très difficile de savoir si c'est une vraie vidéo ou pas. Deuxio.
Yes, we can talk.
Ah, we can talk.
We can talk.
We can talk with accents.
We can sing talk.
L'application génère aussi du son et des dialogues, ce qui n'était pas le cas des autres générateurs de vidéos jusqu'à maintenant. Pour l'instant, c'est disponible uniquement aux États-Unis, $250 par mois quand même, et pas en France. Donc on n'a pas pu la tester, mais nos amis américains s'en donnent à cœur joie.
Welcome to a non-existent car show. Let's see some opinions.
I feel safe with him in an SUV.
Voici par exemple un faux micro-trottoir dans un faux salon de l'auto. Le dernier personnage que vous entendez est un motard, blouson de cuir et grosse bagouze. Il nous explique qu'il vient d'acheter une voiture électrique. Bref, les possibilités sont infinies. On peut même faire du dessin animé. Voici deux muffins qui discutent pendant qu'ils cuisent dans un four.
I can't believe this VO3 thing can do dialogue now.
Ah! A talking muffin!
C'est assez vertigineux. D'ailleurs, Libération a fait un quiz pour voir si les gens arrivaient à distinguer le vrai du faux.
Les vidéos filmées dans la vraie vie et les vidéos générées par Google. Verdict de Vincent Caucase, le journaliste de Check News qui a monté Squeeze.
Alors, on n'a pas accès aux résultats précis des lecteurs, mais nous, on a fait le test au sein de la rédaction, auprès de proches, et puis on a eu des retours sur les réseaux sociaux. Il y a absolument personne qui a réussi à détecter toutes les vidéos authentiques et à les distinguer des vidéos générées par IA. Et même des personnes qui connaissent très bien le sujet de l'IA se font avoir. Et ce que je trouve intéressant, c'est que certaines des vidéos authentiques qu'on a mis dans le quiz sont considérées par beaucoup comme des vidéos générées par IA. Donc, en fait, le côté très réaliste des vidéos générées par IA jette le discrédit sur des vidéos authentiques.
Ça jette le discrédit sur des vidéos authentiques, un crédit déjà bien entamé quand on voit dans l'épisode de la chamaillerie présidentielle au Vietnam que l'Élysée, dans sa première réaction, avait laissé entendre que c'était des images générées par IA. Ce qui est complètement faux. Moi-même, j'ai eu 6 bonnes réponses sur 10 au quiz de Libé, ce qui n'est pas génial. Et pour notre fact-checker, c'est le signe que ce générateur de vidéos marque une rupture.
Déjà, puisque contrairement au modèle concurrent, il y a le son qui est disponible et ça apporte une grande crédibilité à ces vidéos. Il y a des vidéos où on entend le souffle du vent, des personnes parler face caméra, des dialogues, des interviews et ça crédibilise beaucoup. Et puis aussi dans les mouvements des personnes, il y avait des choses qu'on pouvait distinguer qui sont beaucoup moins visibles là sur les images de ce nouveau modèle de Google. Et donc ça pose forcément la question de la désinformation, de ce qu'on peut faire passer pour réel alors que c'est des images totalement générées par IA, alors qu'on est encore tout début de ces IA génératives de vidéos, donc on peut assez facilement imaginer que d'ici quelques mois, d'ici quelques années, elles soient encore plus perfectionnées et que ce soit vraiment quasiment impossible de distinguer une vidéo authentique d'une vidéo générée par IA.
Bref, c'est un cauchemar qui s'annonce pour les fact-checkers, d'autant plus un cauchemar que les logiciels pour détecter les vidéos générées par IA sont peu fiables. Alors Google travaille sur un système de filigrane invisible qui permettrait aux journalistes de les détecter, mais on connaît l'ingéniosité des internautes pour contourner ce genre de garde-fou. Bref, il faut se préparer à changer de monde.
Je pense que petit à petit, on a été habitué à ce qu'une image puisse être modifiée avec Photoshop. Là, de la même manière, il va falloir qu'on s'habitue à ce qu'une image soit intégralement générée ou une vidéo intégralement générée par une IA et ne corresponde à rien de réel. Et donc, il faut s'habituer à un monde où une vidéo n'a pas valeur de preuve. Et ça va prendre un petit peu de temps, mais je pense que c'est important d'insister là-dessus.
Bon, un cauchemar pour les journalistes, on a bien compris, et aussi peut-être un cauchemar pour le monde du cinéma.
C'est en tout cas l'idée qu'on avait en tête au moment d'appeler le scénariste Jérôme Genevray. On lui doit notamment La Nuée, film d'horreur sorti en 2020. C'est un ancien ingénieur informatique, féru d'IA, et il a regardé de près les premiers résultats de VO3. Verdict.
Aujourd'hui, les démos qu'on voit sur Internet sont bluffantes. La qualité visuelle est dingue, la vraisemblance des scènes, la gestion physique de l'environnement commence à être sacrément réaliste. Mais au final, pour avoir fait quelques générations de films, on dépasse pas finalement la succession de plans troublants. On est encore loin d'une narration satisfaisante.
Vu la vitesse à laquelle ça va, serait-il inquiet pour son avenir si jamais il était un jeune comédien qui se lance dans le cinéma ?
Non, je m'inquiéterais pas du tout si j'étais un comédien ou une comédienne, parce que le jeu aujourd'hui au cinéma, qui est directement issu de l'acteur studio, c'est-à-dire qu'on doit ressentir les choses, les vivre de l'intérieur, donc avec sa propre personnalité, pour pouvoir les exprimer de manière forte en émotion, on en est très très loin avec les vidéos génératives. Les personnages des vidéos génératives vont montrer les choses, vont démontrer les choses, mais ne vont pas du tout les vivre. Ça va être des pantomimes.
Selon lui, on n'est pas prêt de voir une IA remplacer une équipe de films, mais ces générateurs d'IA seront très utiles pour faire des pubs low cost ou pour vendre un projet à des producteurs.
Et sûr que ce marché va s'étendre. Merci Stéphane et à jeudi prochain. Nous arrivons à la mi-temps de ce 18-20 à suivre le journal de 19h présenté ce soir par Corinne Audouin. Puis le téléphone sonne. Bonsoir Philippe Lefébure.
Bonsoir à tous.
Rédacteur en chef de l'émission. Je disais mi-temps à l'instant. Et on va vibrer ce soir.
Bah oui, les supporters du PSG, on va beaucoup les voir et les entendre dans les prochains jours. Ce soir, on veut parler de tous les sports, tous ceux qui vibrent pour une équipe, qui font des kilomètres pour voir jouer leur équipe, se ruinent en maillot, ceux qui sont mal pendant 2-3 jours après la défaite de leur club. Patrice, est-on un extraterrestre? Si on est français et qu'on ne soutient pas le PSG, supporter de Reims, j'ai toujours suivi avec bonheur les Verts de Saint-Étienne.
Bienvenue, si vous nous rejoignez, on en reparlera évidemment tous ensemble à 19h20.